France Inter.
France Inter. Le 18-20. Fabienne Sintès.
La France vit dans un tissu d'intérêts qui dépasse ses frontières. L'Europe occidentale ne peut donc, dans son ensemble, manquer de bénéficier indirectement de la stratégie française qui constitue un facteur stable et déterminant de la sécurité en Europe. Savez-vous qui parle ? C'est Michel Debré en 1972 dans le livre blanc de la défense. Et dire comme ce débat sur le périmètre de la dissuasion française est vieux comme à peu près la bombe. Chaque président depuis a intégré une dimension européenne dans la dissuasion française, intégrer le fait que les intérêts vitaux français ne sont pas seulement concentrés à l'intérieur des limites de notre territoire. Et pourtant, on a l'impression que quand Emmanuel Macron remet la question dans le débat, cette fois il est urgent de la trancher. Est-ce que la dissuasion nucléaire française peut devenir une dissuasion européenne? Quelle en est la vocation? Quels en sont les moyens? Et puis surtout, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on a les reins assez solides? Pardon, mais mettons les pieds dans le plat. Si notre parapluie couvre toute l'Europe, est-ce que ça veut dire qu'il faut reconsidérer nos fameuses intérêts vitaux, les redéfinir ou en tout cas les définir? Et puis, est-ce que c'est bien toujours nous et seulement nous, le cas échéant, qui appuyons sur le fameux bouton rouge? La question se pose parce que le monde a changé en 15 jours. La question se pose parce que les Allemands, les premiers, ceux-là même qui se sentaient le plus à l'abri du monde sous le parapluie américain, les Allemands ont dit textuellement l'Allemagne est prête à se placer sous la dissuasion nucléaire française. Mais si l'Amérique, et c'est clair désormais, ne veut plus ni payer, ni risquer de brouiller la Russie, ni faire un effort pour l'Ukraine, ou un pays européen, jusqu'où sommes-nous prêts à aller? Vous avez bien compris, en 15 jours comme nous, que l'Europe désormais se prépare au scénario du pire, que les opinions, et les opinions c'est nous, sont en train d'être préparées à une augmentation substantielle de nos dépenses de défense. C'est le téléphone sonne, soyez les bienvenus.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Et Jean-Luc, vous êtes le premier, vous êtes le bienvenu, bonsoir.
Oui, bonsoir Madame Sintès, bonsoir à vos invités.
Bonsoir Jean-Luc.
Et merci. Merci pour votre émission et pour prendre ma question également. Donc j'ai une question générale qui concerne donc le nucléaire mais aussi les armes conventionnelles. Ma question, c'est la France et d'autres pays européens coalisés auraient-ils la capacité d'assurer la sécurité de l'Ukraine sans les États-Unis et dans un délai court, puisque on a besoin d'un délai de quelques mois finalement? Est-ce qu'on en aurait la capacité industrielle et financièrement? Bon, on aurait un effort forcément très important, mais est-ce que les terres rares qui étaient proposées par le président Zelensky aux États-Unis ne seraient pas mieux utilisées en Europe comme pour servir de garant et de remboursement de l'emprunt qui serait nécessaire pour ces efforts militaires?
Merci beaucoup Jean-Luc, c'est marrant parce que les terres rares dans un téléphone sonne précédent, ça revenait aussi à peu près formulé de la même manière. Je vais vous présenter Jean-Luc et à tous bien sûr qui est autour de la table ce soir pour discuter avec nous. Il y a Héloïse Fayet, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes chercheuse à l'Institut français des relations internationales, l'IFRI, vous êtes spécialiste de la dissuasion nucléaire. Il y a Bernard Guetta, bonsoir Bernard.
Bonsoir.
Député européen Renew, et puis Pierre Servant est avec nous également. Bonsoir Monsieur Servant.
Bonsoir.
Vous êtes le spécialiste des questions de défense à TF1-LCI. Vous avez écrit notamment Le Monde de demain chez Pocket en 2014. On va essayer de répondre... En 2024, pardonnez-moi. Héloïse Fayet, on va essayer de répondre à la question de Jean-Paul qui a plusieurs étages en fait. La première c'était, est-ce qu'on a la capacité? Et puis après il parle de temps, dans des délais courts, il a même dit quelques mois... Est-ce que si on est réaliste, il faut dire quelques années? Comment on répond à notre ami Jean-Luc?
Alors tout dépend évidemment des capacités dont on parle. Aujourd'hui, l'Europe, les pays européens ont quand même des capacités militaires stratégiques, des satellites pour l'acquisition de renseignements, pour le commandement des forces sur place, des moyens de frappe dans la profondeur, des chars, de l'artillerie. Donc il y a évidemment des capacités dans de nombreux pays européens. Après, c'est certain que si on doit totalement remplacer les États-Unis pour avoir une crédibilité égale en termes de garantie de sécurité offerte à l'Ukraine. Il y a un récent rapport du Bruegel Institute et du Kiel Institute, donc deux think tanks allemands, et belge, qui affirme que si on veut totalement remplacer les États-Unis, il faudrait que l'Europe et en fait plutôt l'OTAN, lève une armée de 300 000 hommes et dépense dans les prochaines années environ 250 milliards de dollars en termes de, enfin pour le du matériel militaire. Donc est-ce que ce sont des efforts qu'on est prêt à consentir ? Donc la question évidemment se pose, mais la question qui se pose surtout en fait, c'est qu'est-ce qu'on imagine comme retrait américain ? Parce que là, pour l'instant, évidemment, le secrétaire à défense a expliqué qu'il fallait que les Européens prennent en charge leur défense conventionnelle. Il n'a pas parlé du retrait des armes nucléaires américaines déployées en Occident. Et de toute façon, actuellement, l'Ukraine n'est pas couverte par les garanties de sécurité ni de l'Union européenne, ni de l'Europe, ni de l'OTAN. Donc en fait, le nucléaire ne s'applique pas trop à l'Ukraine.
Est-ce qu'on en parle quand même, moi j'aurais quand même en parle quand même Bernard Guetta, du nucléaire, est-ce que la question, je voudrais savoir en quels termes en fait la question est sur le tapis, est-ce que ça veut dire quand les Allemands nous disent nous sommes prêts désormais à nous mettre sous le parapluie français, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça implique pour nous à vos yeux?
Mais écoutez, regardez, c'est très simple, actuellement dans l'Alliance Atlantique, il y avait, hein, parce qu'on ne sait plus s'il est toujours ouvert, mais enfin théoriquement il y a un parapluie américain qui protège l'ensemble des pays de l'Alliance Atlantique. Si l'un d'eux est attaqué, immédiatement, en principe, les États-Unis interviennent et interviennent avec leurs forces de frappe. Est-ce que ça veut dire, aujourd'hui, que tous les pays de l'Alliance Atlantique partagent la décision américaine ? Absolument pas. Est-ce que ça veut dire que les forces de frappe américaines sont aujourd'hui des forces de frappe, comment dire, atlantiques, de l'Alliance Atlantique? Absolument pas. Elles sont américaines. Mais il y a néanmoins, en théorie, toujours, ce parapluie américain. Eh bien, aujourd'hui, ce dont on parle, ce n'est évidemment pas de partager, parce que ça n'a pas de sens, tout simplement, ça n'est pas possible, de partager la force de frappe française. On ne parle pas d'européaniser la force de frappe française, on ne parle pas de la communautariser. Bref, il reste un bouton et un doigt, celui du président de la République française. Mais la grande différence, c'est que on dit beaucoup plus clairement qu'on ne le disait, parce qu'on le disait entre, on le disait entre les lignes, beaucoup plus clairement, eh bien, que oui, il y a un parapluie français sur l'Union européenne.
Et est-ce
partie de l'Union européenne?
Alors, bah, je vois Héloïse Fayet qui fait nom de la tête, mais je voudrais quand même passer la parole à Pierre Servant, pour comme ça on aura entendu nos trois invités autour de la table. Est-ce que vous faites nom avec la tête, Pierre Servant, ou vous faites oui avec la tête? Comme vous êtes à distance, je ne vous vois pas.
Oui, non, je fais rien avec la tête, en fait. Non, bon, la question est extrêmement complexe.
Elle est complexe, mais je vous interromps juste une seconde, Pierre Servant. Le nombre d'appels que j'ai sous les yeux et qui posent très exactement la question de cette manière-là, la question fait-elle sens ou pas ? L'efficacité de la dissuasion réside dans son ambiguïté. Admettons qu'on élargisse. Qui décide, in fine, d'appuyer sur le bouton ? Est-ce que c'est la présidente de la Commission ? Est-ce que c'est le président français? Il y a moult questions qui tournent autour de ces questions. Donc il faut à la fois expliquer et rassurer les gens. Donc allez-y, Pierre Servant.
Oui, c'est un point difficile. Je dirais, depuis 3 ans, je n'ai jamais autant parlé de la dissuasion nucléaire, des questions qui se posent et celles que vous posez aujourd'hui, que je ne l'ai fait dans les 40 années précédentes, où ça n'intéressait pratiquement personne. Et je faisais deux débats, trois plateaux sur ces questions-là. Donc il y a une vraie préoccupation. Bon, d'abord, Bernard l'a dit, il y a, pour la dissuasion nucléaire française, il y a un bouton, un homme, une responsabilité, c'est celle du président de la République, chef des armées, et c'est très important parce que justement le caractère dissuasif doit s'incarner dans une personne et une seule personne. Il n'est pas question d'idées de partage, de colloque pour se dire, tiens, mais est-ce qu'on va le faire? Est-ce qu'on va pas le faire?
On n'appelle pas les 27 avant d'appuyer sur le bouton, on est d'accord avec ça.
Voilà. Donc, tous les cris d'orfraie de certains responsables politiques sur, mon Dieu, c'est horrible, il y a un partage du bouton de responsabilité, ça n'existe pas, ça n'a jamais été dans l'air. Après, c'est assez complexe, là, le principe de dissuasion nucléaire française, puisqu'on essaye de dissuader tout type d'agresseur étranger, en lui disant, voilà, si vous vous en prenez à nos intérêts vitaux, nous avons une telle capacité de destruction chez vous qu'il vaut mieux ne pas le faire. Et à la question, mais c'est quoi vos intérêts vitaux ? La réponse, c'est, eh bien, c'est vous qui devez vous interroger sur la nature de ces intérêts vitaux. Tout ce qu'on peut dire aujourd'hui, et c'est pas négligeable, c'est que la dimension européenne, il y a une dimension européenne dans ces intérêts vitaux. Alors, ceux qui nous veulent du mal vont dire, quotidien. Mais ces intérêts vitaux avec une dimension européenne, c'est quoi? Vous ne pourriez pas préciser? La réponse est non, on ne précise pas. C'est à vous de vous interroger si vous souhaitez attaquer un certain nombre de pays européens, etc. C'est à vous de vous demander si vous touchez les intérêts vitaux de la France. Alors, il y a ce point-là. Le second point qu'a abordé, enfin, qui est dans la question et dans le point des deux autres invités, c'est comment on peut, comment dirais-je, aller plus loin par rapport aux demandes des pays européens. Il faut savoir que le parapluie nucléaire américain, il se concrétise sur le territoire européen par la présence d'armes nucléaires dites tactiques dans plusieurs pays européens, la Belgique, les Pays-Bas, l'Allemagne, l'Italie et la Turquie. C'est-à-dire qu'il y a dans ces pays-là de l'armement nucléaire américain avec des F-35 qui ont été achetés par ces pays-là. Alors ça ne veut pas dire que ces pays-là peuvent utiliser comme ils le veulent cet armement nucléaire.
C'est ce à quoi faisait allusion Élise Fayet, c'est pour l'instant ces armes, elles restent là. Jamais les Américains n'ont dit on va partir avec.
Absolument. Donc là, c'est une vraie interrogation, parce que est-ce que dans le désengagement spectaculaire des Américains du continent européen, est-ce que finalement ils vont les retirer? Alors ça les arrange de les avoir, parce que ça leur permet d'avoir des ventes forcées de F-35, mais est-ce que les pays européens eux-mêmes, certains pays, vont dire, bah, écoutez, reprenez-les, puisque nous n'avons plus aucune confiance dans votre parapluie? Est-ce que l'Allemagne pourrait dire, bah, écoutez, non, reprenez vos armes nucléaires, on va plutôt demander aux Français d'en mettre chez nous pour donner du corps à cette dimension européenne. Alors, je ne sais pas du tout. Ce que je sais juste pour terminer, c'est que toutes ces discussions importantes où il faut tout regarder, ça doit être fait entre les pays qui sont intéressés à discuter de cela dans le secret le plus absolu.
Je voudrais juste que vous répondiez, Héloïse Fayet, parce que je vous ai vu réagir à ce que disait tout à l'heure, je ne sais pas si c'était notre invité ou si c'était... je ne me souviens plus du coup à quoi vous réagissiez, mais en tout cas, je me souviens que c'était véhément. Et je voudrais aussi que vous nous disiez, est-ce qu'il y a une possibilité de ça? Bah écoutez, on n'a plus confiance en vous, amis américains, donc reprenez vos billes. Nous, on a confiance dans notre pays voisin qui est la France. C'est possible ça ou pas?
Alors, tout est possible, évidemment, quand on parle des États-Unis et des pays européens, mais peut-être deux points. Tout d'abord, sur justement cette dissuasion élargie américaine, un terme que je préfère à parapluie, et qui, en fait, s'incarne, effectivement, comme l'a expliqué Pierre Servent, par le déploiement d'une centaine d'armes nucléaires américaine sur des pays européens, mais qui fait quand même l'objet de concertations et de débats à l'OTAN. Ça se fait au sein du groupe de planification nucléaire de l'OTAN, un groupe dans lequel la France refuse de participer. On est le seul pays de l'OTAN qui ne fait pas partie du NPG, enfin de ce groupe. Et donc il y a quand même en fait des débats entre Américains et pays hôtes. Et en fait, même tous les autres pays de l'OTAN sur ce que peuvent faire les États-Unis avec ces armes. Et techniquement, la décision d'emploi, même si elle en revient au président américain, elle est censée être prise plus ou moins en d'accord avec le Conseil de l'Atlantique Nord. Donc là, aujourd'hui, en fait, ce dont manque la France tout de même, c'est d'une structure comme ça de réflexion commune avec les pays européens. Alors évidemment, ça peut se faire en bilatéral, ça peut se faire directement avec les Allemands, avec les Polonais, les Suédois, des pays qui sont intéressés. Et après, sur la question effectivement un peu plus spécifique du déploiement d'armes nucléaires françaises à l'étranger, aujourd'hui, dans l'état actuel des choses, je ne vois pas comment c'est possible. Déjà parce qu'on n'a pas...
Des questions financières, juridiques.
Ça coûte quand même assez cher d'entretenir en fait les hangars et toutes les infrastructures de sûreté nucléaire qui sont dans les pays européens où des armes américaines sont déployées. Et ce qui est important d'avoir en tête aussi, c'est que les armes américaines qui sont déployées en Europe, elles sont vraiment uniquement pour cette mission-là. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez quasiment deux dissuasions. Vous avez la dissuasion nucléaire nationale américaine qui bénéficie aussi aux pays européens. Dans la doctrine nucléaire américaine, il est écrit la dissuasion nucléaire sert à protéger d'attaques stratégiques le territoire américain et ses alliés. Donc ça, c'est une clarté que nous, on n'a pas actuellement dans notre doctrine de dissuasion. Et donc cette dissuasion, elle est assurée par la dissuasion américaine, donc leurs sous-marins nucléaires, les missiles balistiques, les avions, et ils ont vraiment cette catégorie à part, donc les B-61 déployés, que nous, on n'a pas, en fait.
Parce que je voudrais qu'on puisse quand même prendre le temps aussi d'avoir des auditeurs et que vous soyez tous pas si long, je vous ai vu,
Oui, peut-être
juste une seconde.
À mon tour, de ne pas être tout à fait d'accord. Évidemment qu'il y a des concertations au sein de l'OTAN sur comment, pourquoi, etc. Quand est-ce qu'on emploie ou n'emploie pas. Mais cela, c'est le théâtre. La réalité, c'est que ce sont les Américains qui décideraient le moment venu. tout simplement parce que ce sont les Américains et parce qu'il n'y a pas d'autre moyen. Il y a quelques minutes pour décider. Alors évidemment qu'on décide en fonction d'une politique décidée auparavant, mais la décision est... Bon, et si demain... Le parapluie français était étendu à d'autres pays, peut-être pas à la totalité, c'est une grande question à discuter, elle est particulièrement délicate. Mais en tout cas, à l'Allemagne, puisqu'elle en a fait la demande, eh bien, évidemment que la décision resterait française. En revanche, il faudrait très probablement multiplier, accroître le nombre de têtes nucléaires françaises. À ce moment-là, nous ne serions pas les seuls à payer, évidemment.
Alors, on va venir à la fois aux têtes et aussi à l'argent, d'ailleurs. Voici Serge qui est avec nous. Bonsoir, Serge.
Oui, bonsoir, Madame Saintès.
On vous écoute.
Bonsoir, Madame Saintès, et bonsoir à vos invités. Je vous remercie de prendre ma question. Alors, sur le principe, je suis plutôt favorable à un élargissement de la dissuasion nucléaire française à nos alliés européens, tant que la France est totalement indépendante, à l'inverse de la Grande-Bretagne, qui, elle, a des missiles nucléaires américains, je crois. Donc, il y a quand même une différence entre les deux pays. Et moi, ma question et mon intervention portent plutôt sur les contreparties que la France doit exiger. Alors, on va peut-être me trouver terre à terre, mais vu le contexte budgétaire, c'est quand même pas négligeable. Certes, j'ai bien conscience qu'il y a d'autres enjeux bien plus larges en termes stratégiques, mais... je trouve que souvent, nos dirigeants sont trop idéalistes et en fait, des contreparties financières de la part de nos partenaires éventuellement pour nous aider, puisque c'est quasiment 50 milliards d'euros, je crois, sur 5 ans, d'une part, et d'autre part, des contreparties en termes de préférences industrielles communautaires, parce que la France ne vend quasiment plus d'armes au sein de l'OTAN, en dehors de la Grèce, je crois. Et donc, en fait, j'aimerais bien en fait que nos dirigeants, d'une certaine manière, défendent davantage nos intérêts, parce qu'on a quand même des partenaires qui défendent souvent leurs intérêts. J'ai vécu en Allemagne, donc je les connais bien. Mais en fait, ma question porte plutôt là-dessus. Alors, elle est assez terre-à-terre, hein. Mais vu le contexte, elle n'est pas anodine, je pense.
Eh ben, elle n'est ni anodine, ni terre-à-terre.
Allez-y, votre question, Bernard, quelle contrepartie
Elle est absolument légitime, elle est absolument légitime. Et il est évident que si cette protection, ou ce parapluie français, était étendu à d'autres pays de l'Union européenne, eh bien, ces pays devraient contribuer non seulement au développement qui serait alors inéluctable de la force de frappe, c'est-à-dire du nombre de têtes, mais aussi à l'entretien qui coûte extraordinairement cher de cette force nucléaire. Non, monsieur, votre question n'a rien de terre-à-terre, elle est absolument fondamentale.
Donc ça va rentrer à un moment ou à un autre, ça rentre dans des discussions, ça. Et
mais,
au fait,
mais bien sûr, écoutez, dès lors que l'Allemagne nous dit, et c'est ça le grand changement, parce que la France, vous le rappeliez tout à l'heure dans votre introduction, la France, depuis le général de Gaulle, n'a cessé de dire que les intérêts de la France n'étaient pas seulement l'Hexagone, c'était aussi largement d'autres pays européens. Eh bien, dès lors que ce ne sont plus nous qui le disons, mais que l'Allemagne nous le demande, évidemment qu'il y a la nécessité d'une participation financière de l'Allemagne. Mais je ne crois pas du tout que ce soit contesté à Berlin.
Alors, deux questions. C'est contesté à Berlin
Oui, bien sûr. Les Allemands voient justement ce projet en fait, de dimension européenne des intérêts vitaux français comme une façon détournée de les faire payer la dissuasion nucléaire française sans forcément qu'ils n'aient confiance entièrement en le président de la République pour qu'il actionne potentiellement le bouton nucléaire pour défendre les Allemands. Et au contraire, je pense que ce n'est pas forcément une très bonne idée de monnayer Cette dissuasion, il faut que ça repose sur autre chose. Il faut que ça repose sur des valeurs partagées, sur une conception partagée de la sécurité européenne, de la défense européenne, qu'on comprenne quels sont les intérêts vitaux de l'Allemagne, quels sont les liens entre intérêts vitaux français et allemands. Après, évidemment, si jamais, et ce n'est pas envisagé pour le moment, il y a des armes nucléaires françaises déployées en Allemagne, dans ce cas-là, oui, il y aura une contribution financière pour l'entretien, comme c'est le cas actuellement avec les bombes américaines qui sont déployées en Allemagne, des garanties aussi éventuellement où les Allemands pourraient plus facilement acheter du F-35. En revanche, faire financer vraiment la dissuasion française par les Allemands sans autre garantie qu'ils payent, donc ils en profitent, c'est quelque chose de dangereux et c'est pas un sujet à aborder maintenant.
Il y a, Pierre Servant, on a parlé de doctrine tout à l'heure, on a parlé d'intérêts vitaux aussi, on a parlé de charte. Moi, je voudrais savoir si dans l'hypothèse où il y aurait une extension de notre parapluie, en effet, pardon de le dire aussi, parce que c'est ce qui est le plus clair pour les gens qui nous écoutent, écoute. Est-ce que ça veut dire en effet qu'il faut redéfinir notre doctrine, redéfinir ce que sont nos intérêts vitaux? Est-ce qu'au contraire, par ailleurs, ce sont des choses que justement on ne définit pas et qu'on laisse dans le flou et on sait bien pourquoi il faut laisser ce genre de choses dans le flou? Est-ce que ça change de ce point de vue-là ou pas?
Bah, oui, ça pourrait changer, mais je dois avouer que le débat que l'on a, qui est tout à fait important sur des vraies questions, me donne un peu le vertige, mais peut-être parce que je suis trop classique dans l'approche que j'ai par rapport à la dissuasion nucléaire, mais ce qui ne veut pas dire, encore une fois, que ces questions ne se posent pas. Et voyez-vous, je suis très gêné par l'idée, par exemple, que parce que les Allemands pourraient payer une protection nucléaire française, bah, les autres en seraient exclus et qu'il y aurait l'idée qu'il faudrait avoir un ticket d'entrée pour l'avoir. Donc, non, mais je sais bien que c'est pas... Voilà, donc bon, je suis un peu, comment dirais-je, embarrassé, ce qui fait que j'espère ne pas être trop conservateur dans mon esprit. Pour l'instant, en attendant des discussions qui doivent être confidentielles, secrètes, pour essayer de déterminer un certain nombre de choses pertinentes, pour l'instant, le meilleur système qui fonctionne, à mon avis, c'est le fait que les intérêts vitaux français ne sont pas définis. Et que, pour être très clair, pour Vladimir Poutine, comme ça l'avait été d'ailleurs pour les Soviétiques, puisque la doctrine de dissuasion nucléaire française n'était pas du tout alignée sur la doctrine de l'OTAN, qui était ce qu'on appelait la riposte graduée, l'OTAN considérait que l'arme nucléaire pouvait être une arme d'emploi du champ de bataille à égalité avec les Soviétiques qui l'auraient utilisée. Les Français le refusaient totalement, en disant nous voulons dissuader totalement, et d'ailleurs le général de Gaulle, quand il a fondé la dissuasion nucléaire, avait dit à ses ingénieurs: donnez-moi une arme qui me permette de tuer 70 millions de Russes en Union soviétique. Donc c'était assez simple et assez carré. Alors aujourd'hui, cette sanctuarisation a bougé, encore que je sais par des fonctions passées ce que la dissuasion nucléaire française pourrait faire dans la Fédération de Russie. Si elle était frappée, les Russes le savent aussi, et c'est extrêmement dissuasif, très très dissuasif, car ce sont des coups qui sont extrêmement durs. La France n'a pas besoin de milliers de têtes, ces têtes suffisent à dissuader, et pour l'instant, je trouve que le fait de dire voilà, c'est les intérêts vitaux, c'est à vous de vous poser la question, il y a une dimension européenne que l'on comprend bien, et c'est à vous, les Russes, de vous dire « Ah, mais est-ce que Tallinn, c'est dans les intérêts vitaux de la France ? Est-ce que Varsovie, c'est dans les intérêts vitaux de la France ?» Eh bien, cher monsieur Poutine, c'est à vous de vous poser la question.
Donc
pour l'instant, j'en reste là, mais il faut réfléchir, parce que nous sommes dans une bascule historique complète, et donc, évidemment, on ne peut pas être inerte sur le plan intellectuel et mental, donc je comprends très bien le débat, il faut que les Européens l'aient aussi. Tout dernier point, pour les pays du front oriental de l'OTAN, notamment la Pologne, la Tchéquie, il y a malheureusement l'ombre portée des défaillances françaises avant la Seconde Guerre mondiale. Nous n'avons pas été aux côtés des Tchèques, nous sommes des Tchécoslovaques, on n'a pas été à leur côté, mais même on a aidé l'Allemagne nazie à les dépecer. Et puis, on n'a pas été aux côtés des Polonais quand ils ont été attaqués par l'Union soviétique et l'Allemagne nazie, et ça pèse quand même encore dans les esprits. Donc il faudra encore des évolutions, des discussions, et pour l'instant, on en est encore loin, et donc pour l'instant, il faut rester très calé, à mon sens, sur les intérêts vitaux. Monsieur Poutine, si vous avez envie d'aller plus loin, c'est vous qui devez vous poser la question si vraiment vous avez envie d'avoir des destructions massives chez vous.
On a entendu ça. Allez-y, Bernard, et puis le standard.
Vraiment deux phrases. Et évidemment qu'une extension du parapluie français à d'autres pays de l'Union européenne pose mille problèmes, extraordinairement difficiles à résoudre, et personne n'a véritablement la solution aujourd'hui. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que si l'Allemagne se tourne vers nous, c'est parce qu'elle a le sentiment, hélas justifié, que le parapluie américain s'est virtuellement terminé, et à mes yeux, totalement terminé, parce que Trump a achevé de décrédibiliser la protection nucléaire américaine. Donc, nous sommes obligés simplement de passer à cette phase de nous poser les questions, de savoir comment résoudre. Je vous donne un seul exemple. On étend à l'Allemagne, on étend à d'autres, 3-4 pays, 3-4 autres qui nous le demanderaient. Et puis, d'autres ne le font pas, ne nous le demandent pas. Et les Américains ne sont plus là. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'il y a un permis d'attaquer ces pays. Mais, c'est vertigineux.
Mais j'allais vous
évidemment.
Poser la question, parce qu'on parle de l'Allemagne et Louise Fayet, mais qu'est-ce que ça veut dire, en fait, si on étend effectivement ce bouclier? On parle évidemment virtuellement, mais encore une fois, les questions, elles valent dans ce qu'on est en train de traverser là. Qu'est-ce que ça veut dire, européen, dans ces cas-là? Est-ce qu'effectivement, c'est l'Allemagne, parce que l'Allemagne nous l'a explicitement dit? Est-ce que ça veut dire que c'est beaucoup plus loin et on considère que c'est l'Europe au sens de l'Union européenne. Qu'est-ce que ça veut dire?
Je pense qu'en fait, il faut voir le problème à l'envers. C'est-à-dire que la dissuasion nucléaire, comme Pierre Servent l'a rappelé, elle est faite pour protéger les intérêts vitaux d'un pays. Donc, la dissuasion nucléaire française, les intérêts vitaux français et leur dimension européenne. Il faut se rappeler quand même, le président Macron en avait parlé dès 2020, donc ce n'est pas un débat si récent que ça, même s'il a une dimension différente aujourd'hui. Donc, en fait, ce qu'il faut se poser la question, c'est en quoi nos intérêts vitaux sont-ils susceptibles d'être affectés s'il se passe quelque chose, par exemple, en Pologne, en Roumanie ou en Suède. Donc, il faut penser, en fait, la menace, ensuite, les conséquences de cette menace sur les intérêts vitaux français, et ensuite, en parler, du coup, avec ses alliés, en disant, on a constaté que si la Pologne est envahie, ça a forcément des répercussions sur les intérêts vitaux français, exactement comme en 1995, avec le Royaume-Uni, on a clairement défini que une attaque sur les intérêts vitaux britanniques aurait forcément des conséquences sur les intérêts vitaux français, et vice-versa. Donc, une piste, ce serait justement d'avoir un peu cette même déclaration avec les pays dont on voit un intérêt. En fait.
On est en train de parler de dissuasion nucléaire, téléphone sonne avec Bernard Guetta qui est député européen Renew, avec Héloïse Fayet qui est chercheuse à l'IFRI et spécialiste de dissuasion nucléaire, avec Pierre Servent qui est spécialiste des questions de défense à TF1 et LCI. Et avec vous, David également, bonsoir à vous.
Bonsoir.
On vous écoute, David.
Alors moi je me faisais la réflexion suivante, est-ce que la doctrine du parapluie nucléaire n'est-elle pas une ineptie en tant que telle?
Je ne comprends pas la question, mais allez-y, continuez.
Oui, je remets en cause, moi, la question du parapluie. Est-ce que le parapluie, ça marche sur le papier, mais c'est complètement irréalisable? Quel chef d'État serait assez fou pour risquer la vie de ses propres citoyens, qui l'ont élu, de voir des villes dans le cadre du pire?
Oui, c'est le principe.
Des villes rayées de la carte pour aller défendre des pays tiers qui ne l'ont pas élu et qui ne relèvent pas de la souveraineté populaire.
Merci.
Pour moi, l'arme nucléaire, c'est perso. Ça ne peut pas se... Le parapluie nucléaire, pour moi, est une... C'est une ineptie, c'est un fantasme, plus qu'autre chose.
Alors, ça parle de dissuasion, et c'est à ça que sert la dissuasion, en réalité, mais Louise Fayet, moi j'aime bien notre ami David qui dit, pour moi, l'arme nucléaire, c'est perso.
Oui, c'est on a une vision
mon
très bouton. Française, là, de la dissuasion nucléaire, où il faut se rappeler que si le général de Gaulle a décidé que le président de la Ve République serait élu au suffrage universel direct, c'était justement pour qu'il soit intronisé, entre guillemets, de cette responsabilité nucléaire, même si, comme on l'a rappelé, dès 1972, le premier livre blanc qui aborde les questions nucléaires, on reconnaissait déjà l'approche des territoires français comme étant quelque chose couvert par cette dissuasion nucléaire française, tout simplement justement parce qu'on reconnaît qu'aujourd'hui, et à l'époque, l'imbrication en fait de la France au sein d'un écosystème européen ne nous permet pas d'être aussi égoïste, entre guillemets, parce que, à nouveau, quelque chose qui donne de grave, qui arrive par exemple en Pologne, qui est de nature à affecter les intérêts vitaux polonais, il est aujourd'hui irréalisable de penser que ça n'a aucune conséquence sur la France, au même temps ou quelques mois plus tard. Et donc oui, il faut pouvoir rentrer dans ce dialogue dissuasif avec l'adversaire, donc ici la Russie, dès qu'on voit justement qu'il y a une possible atteinte aux intérêts vitaux polonais et que ça peut avoir des conséquences sur nous.
Est-ce que le... Pardon, allez-y Bernard.
Oui, je voudrais simplement dire à notre auditeur, à David, qu'à la fin des années 30, beaucoup de gens pensaient que le dépeçage de la Tchécoslovaquie, c'était pas un problème pour nous. Vraiment, beaucoup, beaucoup de gens. Probablement la majorité des Européens, en tout cas des Britanniques et des Français. On a vu le résultat. On a vu le résultat. David, ouvrez un livre d'histoire. Si vous n'avez pas ça en tête, vous verrez le résultat.
Est-ce qu'on peut parler de nombre? Parce qu'on a un peu évacué cette question. 1670 têtes nucléaires et stratégiques, plus une centaine de mondes à gravité déployés en Europe, ça ce sont les États-Unis. 290 armes nucléaires pour nous les Français. Les Britanniques, combien?
225.
225 pour les Britanniques. C'est important de parler de chiffres, Louise Fayet?
Alors oui et non, je pense que c'est...
Ou est-ce que finalement non?
Je pense que c'est un peu prématuré en fait de se concentrer.
J'espère que beaucoup de choses sont prématurées, parce qu'on est en train de se raconter.
Oui,
de
alors... Non mais oui et non. Enfin, je veux dire...
Non, mais je trouve ça un peu, en fait, contre-productif peut-être de cristalliser le débat autour des chiffres. D'abord, parce que Pierre Servan l'a rappelé, la doctrine nucléaire française, c'est une doctrine qu'on appelle de stricte suffisance. Et donc, effectivement, vous inquiétez pas, 290 têtes nucléaires, c'est largement assez pour dissuader la Russie. Il y a des capacités de destruction, en fait, qu'on a beaucoup de mal à imaginer encore, enfin, aujourd'hui, parce que heureusement, il n'y a pas eu d'emploi de l'arme nucléaire depuis 1945, et on espère que ça restera comme ça. Mais effectivement, nos alliés dans l'OTAN, eux, ont une culture stratégique différente. Ils ont la culture stratégique des États-Unis, où justement l'important arsenal nucléaire américain, alors qui était largement supérieur pendant la guerre froide, est justifié par la dissuasion énergie américaine qui s'applique aux pays de l'OTAN, et il ne faut pas l'oublier aussi aux pays asiatiques, donc la Corée du Sud, le Japon, l'Australie. Donc en fait, il n'y a pas vraiment de sens aujourd'hui à comparer l'arsenal américain, l'arsenal français et l'arsenal britannique. En revanche, si vraiment on évolue vers une situation où on ne peut plus du tout avoir confiance en les États-Unis, il y aura effectivement des réflexions capacitaires à avoir. Mais pour moi, là, l'urgence, c'est plus renforcer la crédibilité politique d'Emmanuel Macron auprès de ses alliés européens, et aussi, on n'en a pas parlé, mais réfléchir aux capacités conventionnelles. Parce qu'en fait, la dissuasion nucléaire, c'est fait pour dissuader des menaces qui sont de nature à atteindre nos intérêts vitaux. Donc c'est vraiment des menaces très très haut du spectre, comme on dit. Et donc du coup, pour dissuader des menaces qui sont sous le seuil du nucléaire, il nous faut aussi des capacités conventionnelles. Et là, c'est vraiment pour moi là que doit se faire l'effort européen, c'est construire ensemble des capacités conventionnelles efficaces de nature à dissuader la Russie.
Pierre Servant, une question de Frédéric sur l'appli WhatsApp, et c'est vrai qu'on les a un petit peu passés à l'as, les Anglais, autres détenteurs de l'arme nucléaire, comment se positionnent-ils dans ce débat-là? Comment répondent-ils aux questions qu'on est en train de se poser, nous, ce soir?
Écoutez, le sentiment que j'ai, c'est que pour l'instant, ils n'y répondent pas. En tout cas, je n'ai pas vu de déclaration dans ce sens-là. Alors, effectivement, nos amis britanniques avec lesquels on a des liens étroits, il avait même été question dans le passé qu'on fasse des patrouilles de sous-marins nucléaires lanceurs d'engins qui représentent vraiment les missiles balistiques intercontinentaux, le cœur de la dissuasion nucléaire. Et les Britanniques ont aussi des SNLE. Il était question de faire des patrouilles communes, c'est-à-dire considérer que s'il y avait un SNLE français, ça couvrait la dissuasion britannique. Inversement, je crois qu'on n'est plus là-dedans, mais le problème qu'ils ont, ça a été dit dans votre introduction, je crois, c'est que, contrairement à la France, un, ils ne sont pas dans l'Union européenne, deux, ils n'ont pas une indépendance, une autonomie totale.
Ouais, alors que nous,
oui, nous, voilà, c'est 100% français, voilà, c'est français totalement dans tout.
Dans leur armement nucléaire.
Dans la maintenance, dans l'armement nucléaire. Ouais. Eux, par exemple, pour vous donner un détail qui frappe toujours les officiers de marine français qui vont à bord des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins britanniques, dans le sous-marin lui-même, quand il s'approche de la tranche la plus sensible, c'est-à-dire la propulsion nucléaire et les missiles nucléaires, ils ne peuvent pas pénétrer dans cette tranche-là sans l'autorisation des Américains. C'est-à-dire que les Britanniques ne peuvent pas faire visiter leur SNLE totalement sans avoir l'autorisation des Américains. Et il y a effectivement des composants américains dans les missiles eux-mêmes. Donc, ils n'ont pas une totale liberté de manœuvre comme nous l'avons. Donc, on a une position un peu unique au sein de l'Union européenne.
Abdella est avec nous. Bonsoir, Abdella.
Oui, bonsoir.
On vous écoute.
Voilà, c'est ma question toute simple. Finalement, donc, les Allemands, pour assurer leur défense, et puisqu'ils ne peuvent plus bénéficier du parapluie américain, et donc ils seront sous la protection de la France, et si un jour il y a un changement de régime en France, ils vont se retrouver tout seuls face aux Russes, et qu'est-ce qui les empêcherait donc de développer aussi à leur tour l'arme nucléaire pour se défendre? On l'a bien vu dans d'autres pays tels que l'Inde, Pakistan, Israël, qui ont développé l'arme nucléaire. Qu'est-ce qui empêcherait les Allemands de le faire? D'autant plus que leurs scientifiques ont contribué donc au développement de l'arme nucléaire aux États-Unis dans les années 40. Pourquoi ils ne pourraient pas le faire?
Merci beaucoup, Abdella, pour votre question. Vous êtes nombreux là-dessus. Je voudrais y ajouter, avant que vous répondiez, Héloïse Fayet, Richard, qui dit « Mais comment passer des accords nucléaires entre nations si un nouveau chef d'État peut évidemment tout remettre en cause ?» Comment répond à Abdella et aussi à Richard?
Oui, deux réponses aux deux questions. Oui, alors la prolifération nucléaire par l'Allemagne, bon déjà, l'Allemagne est signataire du traité
traité de non-prolifération nucléaire qui est censé empêcher la prolifération. Donc il faudrait qu'ils sortent du traité pour se doter d'une arme nucléaire. Et puis surtout, ça prend quand même beaucoup de temps et ça coûte très cher. Okay. Donc là, aujourd'hui, les possibilités de développement d'une arme nucléaire par l'Allemagne, elles sont toujours possibles, mais c'est quand même assez improbable, en tout cas à court terme. Deuxième point sur le régime politique. Effectivement, moi, c'est pour moi le plus grand danger, en fait, relatif à cette proposition d'Emmanuel Macron, c'est qu'en fait, le mandat d'Emmanuel Macron, il se termine dans 2 ans. Si c'est quelqu'un de LFI ou du RN qui arrive au pouvoir, on l'a vu avec la déclaration de Marine Le Pen. Alors, Jordan Bardella s'est montré un peu plus modéré, nuancé sur le sujet. Mais en tout cas, les pays européens pourront beaucoup moins faire confiance à un président ou une présidente qui est foncièrement anti-OTAN, foncièrement anti-UE et qui ne veut pas partager le bouton alors qu'il n'est pas question de partager le bouton.
Évidemment.
Donc c'est pour ça qu'il faut agir maintenant et graver, entre guillemets, le plus de choses dans la pierre et avoir ça en tête quand on votera en mai 2027.
C'est ça,
et
expliquer, Bernard Guetta, ce que veut dire effectivement l'extension potentielle de ce parapluie-là pour éviter de tomber dans des questionnements comme cela s'il se passe quelque chose en 2027.
Si vous me permettez, Fabien, une remarque générale. Si nous avons ce débat aujourd'hui et si... beaucoup de Français, entre eux, ont ce débat aujourd'hui. Ben, pourquoi ? Ben, pour une raison très simple. C'est que les Européens, les Allemands comme les autres, ne croient plus fondamentalement qu'ils le disent ou pas à la pérennité de la protection américaine. Et que donc nous en sommes tous, nous, Européens, à nous poser la question comment pouvons-nous nous défendre aujourd'hui ? Et aujourd'hui, il y a un débat absolument sérieux, dont il ne faut pas sous-estimer l'importance et la profondeur qui s'est ouverte sur comment nous doter d'une défense commune. Et on va le faire. Et on va le faire.
Et on va le faire. Vous, vous êtes positif là-dessus, Bernard Guetta. Et surtout, accéléré par rapport...
Mais bien sûr.
Parce que ce Fabienne, soit sur le tapis depuis très longtemps, la question ne se pose pas.
Formidablement compliqué. Ouais. Bien entendu que ça va être formidablement compliqué. Mais on le fera parce qu'on n'a pas le choix. Tout simplement parce qu'on n'a pas le choix. Nous n'avons plus d'autres protections.
Je disais tout à l'heure, et c'est pour vous le député européen, ça en introduction, que désormais il fallait habituer nos opinions à faire monter les...
Vous avez vu le sondage ?
Ben alors voilà, c'était la question que j'allais poser.
Elle est assez ouverte à cela, hein, à l'idée d'une défense commune. Très ouverte même. 75% de nos électeurs.
Et je vois Héloïse Fayet qui fait oui avec la tête. Donc visiblement, effectivement...
Oui, et le plus grand risque, selon moi, c'est qu'il y ait un traité de paix en fait, qui soit signé entre la Russie et l'Ukraine, qui laisse 5 ans à la Russie pour se construire, pour attaquer l'Europe, et que dans ce laps de temps, on n'a rien fait pour nous défendre pour 2030.
Comme le temps a changé en 15 jours seulement.